Merci Monsieur le Président. Merci aussi à vous tous qui avez fait l'effort de rester jusqu'à la fin. Alors pour vous, ça sera la double peine parce que vous allez avoir l'intervention scandaleuse de la journée, la mienne, puisque je vais vous parler à la fois d'un musée pauvre, il en existe, et d'un mode d'exposition quasi illicite, même si je vois que de nobles musées nationaux l'utilisent également. Alors, cette intervention, je l'ai proposée sous le titre de « Small is beautiful », mais avec un point d'interrogation, parce que j'en suis pas complètement sûre. Mais en tout cas, je peux dire que « Small is fun », et je vais essayer de vous le montrer. Alors, on va changer de monstre sacré, comme vous le disiez, Monsieur le Président, puisqu'on quitte la noble figure de Saint-Louis pour un moustachu un peu irascible, qui a fait beaucoup parler de lui aussi. Là, c'est la couverture de notre catalogue, mais c'est aussi, je le dis pour vous faire sourire, en grinçant, c'est une caricature qui le représente en train de faire le ménage dans les administrations de l'État en 1908. Donc c'est malheureusement une préoccupation qui revient assez fréquemment. Alors, notre moustache. Il faut d'abord que je vous parle de contexte, parce que sinon, ce que je vous dirai après sera difficile à comprendre. Alors, je travaille pour le Musée national Clémenceau de Lattre, à Mouilleron-en-Parède, c'est déjà très ridicule, en Vendée. Et c'est un tout petit musée, il y a 3,6 ETP, hein, équivalent temps plein, plus moi, mais moi je suis bénévole, donc je travaille quand je peux, quand je veux, le soir, le week-end par exemple, et c'est assez difficile d'être le conservateur bénévole d'un musée qui se trouve à 450 km et dont la gare la plus proche est à 40 km, et mal desservie puisque c'est la Roche-sur-Yon. On a 75 000 euros de fonctionnement, on en est plutôt content, on paye avec ça les assurances, les fluides, le jardinier et l'action culturelle et la conservation préventive. Bon, on y arrive à peu près. Et puis tous les ans, le service des musées de France, puisqu'on est un musée national, nous alloue à peu près 5 000 euros de plus et on est super content. On repart en ayant l'impression d'avoir gagné, de fait on a gagné. Alors c'est un musée ou un ensemble, comme je vous le présenterai, qui n'a pas de salle d'exposition depuis le début, pas d'atelier pédagogique, pas de salle de conférence ou de salle de réunion, pas de réserve, mais on a réussi à en aménager en 2008, et puis on continue à les aménager. Enfin, on a réussi à louer un hangar, et puis ce délicieux petit musée se trouve au cœur du bocage vendéen, dans une commune de 1400 habitants et à 40 km de tout lieu culturel et de tout musée, ce qui finalement fait notre chance. Mais c'est pour ça que je dis souvent que c'est le plus petit musée national du monde. Je pense qu'il faudrait que je cherche dans pas mal de pays en développement pour trouver l'équivalent. Alors, le tout se corse parce qu'il y a plusieurs sites. Non seulement c'est un musée bizarre et pauvre, mais pourquoi est-ce un musée national? Ça, ce sont les curiosités de l'histoire. Georges Clémenceau et le maréchal de Lattre sont nés à Mouilleron-en-Parède. Donc, curiosité de l'histoire et grand amour d'une veuve, la maréchale de Lattre, ça a donné un musée national, puisque la maréchale de Lattre, inconsolable, a voué le reste de sa vie, c'est-à-dire plus de 50 ans, à la mémoire de son mari, et a vendu à André Malraux l'idée d'un musée national consacré aux deux figures, où il y avait 80% maréchal de Lattre, 20% Georges Clémenceau, mais c'était quand même les deux victoires. Et je vous ai mis deux photos qui vous donnent un peu l'esprit du lieu, c'est-à-dire très commémoratif, digne, c'est un petit peu daté, on va dire. Ça date de 59. C'est comme une salle d'honneur dans un musée militaire, et c'est dans la mairie. Alors, en 1972, la maréchale de Lattre, toujours influente, convainc l'État, persuade l'État, à acheter la maison natale de son mari aux héritiers, ses neveux. Et donc, on a une belle petite maison, qui est une maison de notable vendéen, cossu, et qu'on fait visiter parce qu'elle a cet avantage d'être restée intégralement dans son jus, je dirais quasiment depuis la naissance des parents du maréchal de Lattre, puisqu'ils y ont vu, son père est mort centenaire et rien n'a bougé. Donc ça, c'est une image, mais toutes les pièces sont comme ça. Quand on fait le récollement, c'est très compliqué parce qu'il faut soulever tous les bibelots, tous les coussins en macramé, on ne sait pas lequel c'est, mais bon. Ça fait partie des problématiques des maisons meublées. Ça ne nous dit pas grand-chose sur le maréchal de Lattre, et comme plus personne sait qui c'est, à part quelques vieilles personnes ou quelques historiens. On a rajouté dans les endroits neutres des tout petits... On a supprimé les vieilles vitrines hideuses, on a rajouté des petits points d'information et dans les combles, des petites choses sur son rôle dans la Seconde Guerre. Ça marche pas mal parce qu'en fait, ça devient une curiosité ethnographique. Puis un joli jardin reconstitué. Donc, c'est notre fonds de commerce, la maison du maréchal de Lattre. Et puis, on a encore un troisième site, c'est la maison natale de Georges Clemenceau, que l'État a acheté en 2005, l'a forcé par personne, mais il a eu envie de l'acheter, parce que le boulanger la vendait. Et donc, on a une maison qui est assez jolie, qui est complètement vide. Il n'en reste aucune trace de Clemenceau, puisque ses grands-parents l'ont vendue vers 1880. Et le secrétaire général et moi, on a eu l'idée folle de faire un musée Clemenceau, mais ça fait... c'est bien fallu 8 ans pour qu'on arrive à convaincre la tutelle de mettre 3 sous dans l'aventure. Alors, le projet culturel qu'on a élaboré avec le secrétaire général, qui est aussi le médiateur culturel Jean-François Bourasso. Moi, je suis tombée dans le bocal vers 2006, quand mon prédécesseur, également bénévole, est parti à la retraite. Et donc, on s'est dit, on va faire un projet culturel. Alors, c'était à peu près ça, hein, même si ça fait plus de pages, mais c'était, on va tirer parti de la pénurie, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. On va essayer d'implanter ce musée dans son environnement, parce qu'avant, c'était le musée national, donc il parlait à personne. Mais vraiment personne, c'était une forteresse assiégée. Maintenant, on est au cœur de tous les réseaux, on travaille avec tout le monde, et ça a bien marché. Essayer de devenir un lieu culturel de proximité, puisqu'on ne pouvait pas faire d'exposition, enfin rien, donc faire de l'action culturelle, et d'insister sur le fait que cette action culturelle serait simple, conviviale, des petites formes en fait, et que les gens seraient face à du vrai, quoi, pas comme dans une grande salle comme il y en a à Nantes ou au Sable d'Olonne, et puis qu'on serait des médiateurs avant tout, puisqu'on s'était mis sous le patronage de Clemenceau, qui a inventé avec Gustave Geffroy le concept de musée du soir, c'est-à-dire, là je vous ai mis, il y a une grande page, hein, je vous ai juste mis des extraits, pour que l'œuvre, je tiendrai beaucoup pour ma part à ce que l'œuvre fût récréative, et elle la sera si on la fait vivante. Il ne me suffit pas que l'administration accroche des tableaux, plante des statues, exhibe des objets d'art. Ce n'est que la moitié de la besogne. Ces tableaux expriment une sensation, bien. Elles ont quelque chose à dire, mais leur langage a besoin d'un interprète bienveillant, et c'est ce que nous voulions être, l'interprète bienveillant. Et puis vous voyez aussi sa modernité en 1896, puisqu'il dit « Pourquoi les richesses d'art n'iraient-elles pas à ceux qui ne peuvent pas venir à elles ?» Et j'ai l'impression que nos ministres successifs ne disent pas grand-chose d'autre, même si ça, c'est pas si facile que ça, je l'avoue. Alors, donc sous la bannière du musée du soir, on organise, comme je vous le disais, des tas de petites formes. Ça, c'est un concert qu'on a fait le 11 novembre, parce qu'on est aussi sous la bannière de la commémoration en permanence. Parce que le 8 mai, le 11 novembre, c'est pour nous à tous les coups. Et il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis toutes les autres dates qui peuvent être liées aux deux guerres. Donc ça, c'est le 11 novembre 1914. On a eu un très joli récital avec une belle pianiste qui nous a parlé des musiciens européens dans la guerre. Et c'est une très, très belle qualité. Ça, c'est le salon de la maison Clemenceau. C'est-à-dire c'est la seule pièce qu'on peut ouvrir. Jauge 50 personnes. Donc on joue à guichet fermé. C'est génial. On a l'impression d'être indispensable. Soit c'est un autre exemple, mais c'est pour vous montrer quand il y a des musiciens qui viennent, les enfants des écoles assistent à la répétition, leur posent des questions, il y a des démonstrations d'instruments. Et puis on fait du théâtre dans la grange de la maison de Lattre, des balles dans le jardin, enfin, un tas de choses qui sont sympathiques qui plaisent au public et qui sont amusantes à organiser. Alors ça, c'était le contexte, mais il faut le comprendre. Il fallait l'exposer pour comprendre. La conjoncture, ça a été le centenaire de la Première Guerre mondiale, 2014, donc le début des festivités. Tout le monde, toutes les collectivités locales, territoriales, voulant se placer sur la ligne de départ, donc faire ça plutôt en 2014 que plus tard. Et le Conseil général a souhaité que 2014 soit l'année Clemenceau, puisque c'est un fils un fils de la, du département, même si c'est un fils avec qui il entretenait des relations un petit peu difficiles. Mais maintenant, c'est devenu une figure complètement acceptée et revendiquée. Donc il a demandé à la conservation départementale, au service du patrimoine, dirigé par Christophe Vital, de lui faire une proposition. Et c'est là que Christophe Vital a eu une idée de génie, c'est-à-dire de ne pas faire Clémenceau et la guerre, ce qui aurait été ce qu'on attendait, mais de proposer Clémenceau et les arts. Et c'est une autre façon de commémorer et d'explorer des sujets qui étaient en fait beaucoup moins connus, très parcellisés, en fait, qui n'avaient jamais fait l'objet d'une recherche, enfin de recherche regroupée. Donc, l'année Clémenceau et les arts en Vendée. Alors, le premier acte, ça a été une très belle exposition à l'Historial de Vendée en 2014 sur Clémenceau et les artistes modernes. Donc, je n'y insisterai pas, mais c'est un vrai magnifique sujet. Hein. C'est Clémenceau, collectionneur, promoteur de l'art contemporain. Et un très, très beau catalogue que je n'ai pas apporté pour les mêmes raisons que vous, parce qu'il est lourd, mais il est beau. Et c'est une exposition qui a reçu le label d'intérêt national. Le deuxième acte, ça a été l'exposition Clémenceau, le Tigre et l'Asie, en coproduction avec le musée Guimet, qui a ensuite été présentée au musée asiatique de Nice, et puis qui est maintenant à l'Historial de Vendée, ce qui a reçu le label exposition d'intérêt national aussi, qui était une très belle exposition, parce que on le sait, enfin peu de gens le savent, mais Clémenceau était un collectionneur d'art asiatique éperdu en fait. Il y a laissé beaucoup d'argent, il a malheureusement été obligé de vendre sa collection parce qu'il avait des soucis financiers, mais l'exposition a permis de regrouper sa collection et puis d'expliquer ce rôle de passeur, parce qu'il a fait partie de ces Parisiens, de ces Français qui ont éveillé le goût pour l'Asie et l'art asiatique en France. Bon, ces deux manifestations prestigieuses sont accompagnées d'un colloque scientifique, Clémenceau et les arts, qui s'est tenu en vidéoconférence, à la fois à Guimet et à l'Historial, complètement raté en vidéoconférence, mais très intéressant sur le contenu. Et puis, il y a eu un certain nombre de choses très intéressantes qui sont faites en Vendée localement. On crée une application mobile pour suivre sur les pas de Clémenceau, parce qu'il est passé partout, hein, comme Jeanne d'Arc. Mais en Vendée, il est passé partout. Il y a eu une exposition à la médiathèque de la Châtaigneraie sur le côté plutôt Clémenceau écrivain et pistolier. Ça, c'était intéressant aussi de le montrer autrement. Bon, des petites choses. Et puis, en discutant avec l'Historial de Vendée, nous a proposé de contribuer, et on avait très envie de contribuer, ça aurait été très dommage de ne pas y être. On s'est dit pourquoi pas une exposition de caricatures, parce qu'on a un fonds de caricatures. Il se trouve qu'on a des collections. Alors là, j'aurais pu en mettre 500, mais on a des très belles choses, comme celle de gauche, qui sont des icônes de la représentation clémenciste, et puis on a une quantité de petites choses, comme ce que vous voyez, ça. Alors, leur production ne rend pas, mais c'est des cartes postales satiriques. Donc, vous voyez, c'est grand comme ça. Pas facile à exposer. C'est super intéressant comme documentation, mais je le sentais pas trop, même si c'était. J'aime beaucoup cette collection Octave Fort. Donc, on avait des collections, des manques, parce qu'on n'avait pas. La collection était très faible pour les années 1870-1900, qui sont très importantes, notamment pour l'affaire Dreyfus. Et puis, il nous manquait des icônes évidentes, comme cette représentation de Clémenceau en hyène dans le musée des horreurs, qui a représenté tous les Dreyfusards sous les traits de bêtes immondes. Donc ça, on ne l'a pas. Et puis, cette autre, je donne un titre d'exemple, une caricature de Delannoy, de Clémenceau en tête de mort sanguinolente, et c'est l'attaque contre le Clémenceau qui fait tirer sur les émeutes ouvrières. Donc j'aurais pu les emprunter, puisque je les avais localisées et tout, mais je n'avais pas de salle d'exposition. Donc je me suis dit, dans le besoin, on va s'adapter. Et on n'en était pas à notre premier coup d'essai, parce que l'année précédente, oui, c'était en 2012, le Conseil général et la mairie nous avaient dit « C'est le 60e anniversaire de la mort du maréchal de Lattre. » Oui, on sait. « Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» Bon, on s'y attendait. Donc, on leur a proposé une exposition de photos, puisqu'on a un très beau fond de photos, une trentaine de photos. On les a bien choisies. On appelait ça Clémence. Je les mélange un temps en temps, mais je mélange le nom de mes filles aussi, alors c'est pas grave. On avait appelé ça Le maréchal de Lattre ici et ailleurs, avec des photos de lui à Mouilleron, enfin, dans les mêmes lieux, et puis de lui en Indochine, en Alsace, en Allemagne, à Berlin. Voilà, et ben ça a fait un tabac, ce truc. C'est pas du tout une expo scientifique, hein, c'était des photos, on avait fait attention à ce que les légendes soient bien, qu'il y ait une chronologie, mais ça a beaucoup plu. C'était une commande, mais c'était pas l'expo de mes rêves, hein, Pierre-Yves Le Pogam. J'en ai d'autres rêves. Et puis on a fait un petit truc en 2013, on a retrouvé une bande dessinée dans un journal de 1952 qui décrit la vie du maréchal de Lattre. Mais c'est formidable, hein, parce que c'est Prince Vaillant, c'est hagiographique, enfin c'est, j'allais dire un peu ridicule, c'est assez ridicule, mais... on s'est dit, c'est amusant, faisons-le. J'ai fait une introduction en disant, faites attention, ne le prenez pas au premier degré. Quoi. C'est comme ça qu'on le voyait en 1952, tout en sachant que les gens qui allaient le lire le prendraient au premier degré, ce qui m'a un petit peu gênée. Mais ce qui est rigolo, c'est que les visiteurs, en fait, il y a un départ de visite guidée chaque heure. Donc les visiteurs se promènent dans le jardin, ils regardent ça, puis après ils interrogent le médiateur ou l'agent d'accueil et de surveillance qui fait le... La visite, puis, ah mais c'était pas comme ça sur la BD. Alors en fait, ça enclenche un dialogue et c'est pas mal parce que ça permet d'avoir de pouvoir parler entre le premier et le second degré. Parce que la maréchale de Lattre a raconté que c'est elle qui avait aidé son mari à s'évader avec son fils au volant. Enfin bon, on sait très bien que c'est les résistants du coin qui l'ont fait, mais il y a le mythe, mais il y a l'histoire. Alors on s'est dit, eh ben, si on la faisait dans les rues de Mouilleron, l'exposition. Mais on s'est dit, on ne va pas la faire comme les autres. On va se donner comme règle du jeu de faire une vraie exposition scientifique, parce que le reste, c'était de la reproduction de photos. Moi, ce que je voulais, c'était simplifier le propos au maximum, c'est-à-dire que si j'en la mettais dans la rue, c'est pour que ce soit accessible. Et donc, je voulais que ce soit compréhensible, pas seulement transféré à l'extérieur. Et puis, de travailler avec un graphiste, parce que sinon, ça aurait été une horreur. Alors, une exposition scientifique, ben, j'ai fait la recherche. J'avais commencé à la faire, ça m'intéressait. J'ai pris conseil auprès de Bertrand Tillier, qui est professeur d'histoire de l'art à Dijon, et spécialiste de la caricature et des liens entre la politique et l'art. Et qui, bon, je lui ai présenté mon scénario, il l'a validé, il m'a donné deux ou trois idées. Et j'avais pris comme plan... l'importance de la presse pour faire comprendre aux gens d'aujourd'hui que la presse écrite, c'était le médium et que c'était l'outil du combat politique, afin de comprendre ça par rapport à ce qu'on vit face à la télévision, que les progrès techniques avaient permis une diffusion énorme, des tirages énormes, et que Clémenceau lui-même était journaliste qui s'était servi de cet outil. Ensuite, de développer les procédés de la caricature pour donner des clés de lecture d'images qui pouvaient appliquer ailleurs, si vous voulez. Donc, tout ce qui est portrait-charge, animalisation, diabolisation, utilisation des attributs, mais chaque fois avec des caricatures de Clémenceau. Et puis, une espèce de série biographique avec les grands moments que j'avais divisés en quatre volets. Et ça me guérissait de ma frustration de ne pas arriver à faire quoi que ce soit sur Clémenceau, puisque cette maison est vide et on ne peut rien dire sur Clémenceau. Et puis je terminais sur les icônes qui ont traversé le siècle, en fait, parce que maintenant, ce qu'on connaît de Clémenceau dans le grand public, c'est le tigre et le père la victoire. Mais j'essayais de montrer qu'il y avait eu beaucoup d'autres Clémenceau et beaucoup d'autres représentations. Alors, deuxième règle du jeu, simplifier le propos au maximum. En général, j'aime bien ça. Ça m'amuse, mais je n'ai pas trouvé ça très facile. Parce que, d'abord, j'ai éliminé une quantité de caricatures très intéressantes du corpus, mais elles étaient trop compliquées, parce qu'elles demandaient des éléments de contexte, de connaissances historiques, où elles étaient tellement foisonnantes que... c'était pas la peine, donc d'essayer de resserrer, mais il y en avait certaines qui étaient importantes. Par exemple, celle-ci, elle n'est pas forcément facile à décrypter, mais j'avais besoin de la mettre parce qu'elle est très importante dans la carrière de Clémenceau. C'est en 1893, un moment où il est accusé à tort d'un scandale financier, enfin d'avoir trempé dans un scandale financier. Et c'est la fin de sa carrière parlementaire pendant 10 ans. C'est d'ailleurs ça qui lui permettra de s'illustrer dans l'affaire Dreyfus et d'être un des premiers défenseurs de Dreyfus. Mais en tout cas, ça a été un sale coup pour lui. Donc celle-ci, je l'ai gardée, mais il a fallu que je l'explique. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on le représente comme ça, en danseur mondain, en train de jongler avec des livres sterling, et pourquoi il y a un souffleur qui a détressé Mythe. Bon. Et donc, ça n'a pas été facile. Je me suis servi parfois d'un petit artifice, c'est-à-dire, ça ne se voit pas là, mais d'une petite loupe et d'une devinette. C'est-à-dire, je disais, mais qui est le souffleur ? Alors évidemment, personne ne sait, mais c'était des choses pour obliger à regarder l'image de plus près, parce que si j'explique tout, je trouvais que ça perdait de son intérêt. Donc j'ai parsemé les panneaux de petites loupes comme ça, et puis après je donnais la réponse. Et de toute façon, bon, j'ai essayé de résumer l'affaire Dreyfus en 4 phrases, et j'ai eu beaucoup de mal, mais vraiment beaucoup. Et de toute façon, je trouve que je ne suis pas assez simple. Ce que j'aurais aimé, c'est la refaire après, et la faire encore plus simple dans les textes. Bon, travailler avec un graphiste, c'est ce qui a permis que ça soit joli à regarder, que ce soit ludique aussi, en accord avec le dessin de presse, la caricature, et puis que ce soit intelligible, c'est-à-dire que les textes soient bien présentés. Alors, on a fait une exposition de 24 panneaux. Oh, j'aurais pu en faire 70, hein, j'étais bien partie, mais je suis un petit peu restreinte. Je pense qu'on aurait dû faire 20, ça aurait suffi. Donc, avec des couleurs qui correspondaient aux parties. Donc il y avait un repérage, quand on pouvait se repérer, savoir dans quelle partie on était. Voilà. Donc jusque-là, je peux dire qu'on en était content. C'est après, le pire va venir. Donc je suis ravie, je vois les panneaux, BAT, tout bien. Et puis après, il la monte dans les rues. Et alors, quand j'ai vu le résultat, on m'a envoyé les photos, j'ai failli faire une crise cardiaque. Je trouvais ça tellement moche. Alors, je pense que vous trouvez ça moche, mais moi j'ai trouvé ça très très moche. Et j'avais fait un plan de montage avec des 5 séquences qui étaient dans 5 parties du village, qui étaient cohérentes. Finalement, le maire, c'est pas facile, hein, de travailler dans l'espace public, parce qu'il y a des, on pouvait le faire que sur des murs qui appartenaient à la mairie, pas sur des murs qui appartenaient aux particuliers, donc ça réduisait. Puis après, le maire voulait que les enfants des écoles puissent passer sans danger pour venir voir les panneaux. Et puis, de fil en aiguille, il voulait que tout soit autour de la mairie. Bon, donc, tout est autour de la mairie. Voilà. Alors, le budget, ben, ça ne nous a pas coûté très cher. Hein. Ça nous a coûté 9 000 €. On en est plutôt content. 24 panneaux, donc. C'est la fabrication qui a coûté le plus cher. C'est des panneaux en 10 bonds qui sont ultra costauds. Ça fait... Ouf. Un an et 4 mois qui sont accrochés, parce que la mairie nous supplie de ne pas le décrocher. Maintenant, moi, je commence à en avoir marre quand je vais à Mouilleron de voir ça. Mais... Donc, ça ne bouge pas. Très bien. Ça, je crois qu'ils vont nous supplier encore fin 2015. Et comme ça tient, ben, on sera obligé de la laisser. On a fait un petit catalogue. On n'avait pas du tout l'intention d'en faire un, parce qu'on n'avait pas le temps, on n'avait pas l'argent. Et puis finalement, on a eu une queue de crédit en fin d'année qu'il fallait dépenser. Et puis un éditeur local qui a dit « Oh, vous inquiétez pas, je prends les panneaux et j'en fais un catalogue. » Alors ça a donné ça. Alors moi, j'ai dit « Ah, je veux pas. » J'ai dit « Ça, c'est pas un catalogue. » Parce que je voulais faire un vrai catalogue. Et puis, on s'est dit, c'est ça ou rien, on veut en garder une trace, c'est un truc qu'on pourra donner, vendre. Alors, on l'a fait. On a fait 2000 exemplaires qu'on vend 5 €. Donc, c'est la même chose, on a choisi un prix très bas pour que bah, les gens qui ont aimé l'exposition, qui ne l'ont pas vu, puissent l'acheter. Enfin, que ce soit vraiment un produit, l'exposition est ça, accessible. Et on a été un petit peu aidé par l'association des amis du musée. Et l'imprimeur, éditeur, assure la distribution. Donc c'est un best-of dans les supérettes et les maisons de la presse du Grand Ouest. Et j'en suis très contente et très fière. On en a vendu la moitié, hein, déjà. Alors, si on devait tirer un bilan. Travailler dans l'espace public, c'est rigolo. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas chez soi. comme je vous le disais, le maire, c'est ceci, c'est cela. Et puis il y a eu des travaux, alors il a fait démonter 3 panneaux, mais au milieu de l'exposition. Alors, bon, c'est tout le temps des petits trucs comme ça, mais c'est pas grave. Parce que l'avantage, je trouve, c'est que ben, on a donné à voir quelque chose comme ça, gratuitement. Enfin, c'est une sorte de cadeau qu'on avait envie de faire et qui entrait, à notre avis, totalement dans notre politique culturelle, à défaut de notre politique scientifique. On a eu une excellente communication, parce qu'on a bénéficié de la communication de l'année 2014, Clémenceau et les arts en Vendée, mais on a eu aussi beaucoup de choses, des journaux, des télés, parce que ce côté expo dans la rue, ça les a amusés. Enfin, c'est ridicule, mais c'est ça aussi qui a attiré les journalistes. Bon, j'ai fait aussi des conférences, on a fait des choses un peu sérieuses à côté, mais on a bien vendu le catalogue, comme je vous le disais, puis il y a eu une excellente réception, mais je suis pas capable de vous dire combien de personnes l'ont vu. Puis même, je pense que les gens de Mouillon, par exemple, ils passent, ils en regardent 3 panneaux, puis ils vont acheter leur pain, et je me dis, c'est pas mal. C'est une façon, je suis pas contre. Donc on peut pas le quantifier, et on peut pas non plus le qualifier, parce qu'on n'avait pas d'argent pour faire une étude de public, parce qu'on aurait pu en capter quelques-uns et leur demander ce qu'ils en avaient retenu. Mais moi, j'ai gardé c'est ce qu'a dit un habitant de Mouillon. Il a dit, ah, c'est beau, c'est coloré, on apprend plein de choses. Alors, je dis, bon, on a fait une partie du boulot. Alors, la question qu'on peut se poser, que vous pouvez me poser, c'est, est-ce qu'on est encore un musée? Mais c'est vrai, parce qu'on fait des trucs qui sont un peu parallèles, un peu périphériques, mais en réfléchissant avant de venir, je me suis dit, oui, on a un patrimoine, on a des maisons, on a des collections, on les montre, on fait de l'action culturelle, on expose dans la rue parce qu'on n'a pas de salle d'exposition. C'est pas interdit, quoi. J'aimerais bien faire une vraie belle exposition sur Clémenceau, mais en tout cas, comme vous le voyez, je me sens fidèle au musée du soir. Là, je suis devant un des panneaux, mais j'aime Clémenceau maintenant. Il y a 10 ans, c'était à peine un nom dans ma tête, mais maintenant, je suis amoureuse. Et puis, c'est une histoire qui se termine bien parce que le SMF, Service des Musées de France, a décidé de mettre de l'argent sur la maison Clémenceau. On vient de choisir l'architecte et la maison va ouvrir en 2017. Et ça va être très amusant parce qu'on va essayer de mettre nos méthodes en action, là, faire comprendre Clémenceau, non pas sous le plan historique, ce qu'on veut le faire et c'est très intéressant, mais dans sa modernité aussi et puis dans ses ambiguïtés. Et c'est un jeu entre aujourd'hui et hier dont on a fait la programmation, mais on verra ce que ça donnera vraiment dans la réalité. Et puis, très bonne nouvelle, on nous dit qu'en 2019, on devrait avoir une salle d'expo. Alors, je m'en fous, je serai à la retraite, mais mon successeur bénévole pourra faire plein de choses. Je vous remercie.